Vous écoutez, on lit pour vous.
L'inclusion, le travail de tous et toutes, une chronique de Denis Daniel Boulet, parue le 31 août 2023 dans le magazine Fugue. C'est enfoncer une porte ouverte que d'affirmer que la semaine de la fierté a été une grande réussite, et l'on peut sans forfanterie en remercier toute l'équipe de Fierté Montréal. Les quelques averses n'auront pas réussi à mettre une ombre sur ce grand moment d'être ensemble et de partager, rendant effectif pendant quelques jours ce sentiment d'inclusion. Chacun, chacune devait y avoir sa place. En somme, être soi en allant vers l'autre avec la conviction que les différences peuvent aussi rassembler. Pour moi, qui vais bientôt totaliser bien plus qu'une trentaine de marches de la fierté, sans oublier les premières manifestations en France, c'est toujours un étonnement, voire un émerveillement, ce grand rassemblement sous le signe de la fête et du partage. Bien loin, si je remonte dans mes souvenirs, des quelques centaines de militants, au masculin puisqu'il n'y avait que des hommes, surveillés par une police goguenarde et prête à en découdre et regardés sur les trottoirs par une population indignée dans les rues de Paris. Un de mes slogans préférés à l'époque était « Hétéro, t'es foutu, les homos sont dans la rue ». Malgré cela, force est de constater aujourd'hui que la société patriarcale hétéro-colonialiste a encore de beaux jours devant elle, même si les gains sont importants pour nos communautés. Même si nous pouvons être un peu plus nous-mêmes, si nous pouvons le dire, le clamer, le fêter comme le 14 août dernier. J'ai bien sûr profité de la semaine de la fierté, profité des journées communautaires, profité de cette grande bouffée d'air frais pour rappeler au reste du monde que nous sommes là pour de bon, que nous ne serons plus jamais invisibles et silencieux. Ne croyez pas cependant que ce plaisir ressenti m'ait pour autant fait oublier tout sens critique. Et si j'avais été gagnée par un endormissement militant, d'autres, pendant cette semaine de célébration, se sont chargés de me rappeler que tout n'était ni rose ni arc-en-ciel. Au-delà de la grande communion réunie sous un sigle qui n'en finit pas de s'allonger, il y a encore beaucoup de grains de sable, parfois des plages entières de sable, qui enrayent l'engrenage de ce mieux-être de nos communautés. Entre autres, la notion d'inclusion. Ce beau concept de communication devenu un leitmotiv, un peu lassant à la longue, et dont on souhaiterait qu'il soit mieux défini. Car chacun, chacune en tire sa propre définition et surtout se demande si il, elle ou elle est vraiment inclus, incluse ou, au contraire, n'y a pas sa place. Le terme a une valeur universaliste puisque tout le monde devrait être inclus et personne ne devrait se retrouver sur le bord du chemin. Mais la réalité est autre et certains, certaines y voient surtout la dissolution et l'effacement des différences, au profit toujours d'un groupe dominant qui imposerait les normes à atteindre et à respecter de cette inclusion souhaitée et revendiquée. En somme, comme c'est le cas depuis des décennies, que ce sont les hommes gays et blancs qui continuent de donner le « là » de cette inclusion à leur rythme selon les humeurs du moment, d'autant que ce sont ceux qui aujourd'hui sont, toute proportion gardée, les mieux acceptés dans nos sociétés. Bien sûr, ils sont irréprochables sur le plan du discours. Ils connaissent sur le bout des doigts le discours de l'inclusion et même donnent la parole à celles et ceux qui sont en dehors de leur catégorie. Mais ce sont encore trop souvent ceux qui donnent le tempo encore aujourd'hui. Lors de la journée communautaire, le kiosque de Fugue devient un peu le réceptacle de toutes les frustrations des membres de nos communautés. Certaines récriminations sont farfelues et témoignent souvent d'une grande ignorance de nos communautés et de leur histoire. D'autres témoignages, au contraire, demandent peut-être que l'on s'y arrête. Où sont les lesbiennes et le discours féministe me demandait une lesbienne qui regrettait que celle-ci soit reléguée au second plan derrière les revendications trans. Peut-être pas tout à fait faux. Mais j'aurais envie d'ajouter que les questions de la représentativité lesbienne et de leur expression au sein de nos communautés se posent depuis les tout débuts des mouvements LGBTQ dès les années 70 et qu'elles continuent de faire débat. André Patry, dans une lettre ouverte sur les médias sociaux, déplorait que la minute de silence en hommage aux victimes du sida, et qui est un moment fort du défilé, inclut aujourd'hui toutes les victimes d'homophobie et de transphobie, etc. Je suis d'accord avec lui. Je pense qu'il faudrait garder l'origine historique de ce moment de recueillement qui devrait rappeler pour les plus jeunes générations le drame du sida. Mais en même temps, je souhaiterais aussi qu'un hommage soit rendu à toutes les victimes, ici comme ailleurs, de l'intolérance, de l'obscurantisme et du fanatisme. Comment concilier les deux sans qu'un hommage disparaisse ou soit relégué au second plan par l'autre? Je n'ai pas la réponse. On pourrait multiplier les exemples de ce genre qui pointent les difficultés à vendre, sans autre forme de question, le concept d'inclusion. On pourrait parler de la voix des communautés racisées, de celle des personnes trans hors du discours officiel des grands organismes reconnus, ou encore de la misère sociale, voire de l'itinérance aussi des personnes qui, par choix ou par défaut, appartiennent aussi à nos communautés. Bien sûr, le terme d'inclusion fait rêver. Mais un des dangers perçus par certains, certaines, c'est qu'il dilue, dans un même tourbillon, des problématiques bien spécifiques qui demanderaient à ce qu'elles soient prises en compte, mises en relief, qu'elles ne tombent pas dans les craques du plancher au profit d'autres plus au goût du jour. Beaucoup d'organismes, avec les contraintes dans lesquelles ils doivent survivre, continue aujourd'hui d'œuvrer pour que ce terme d'inclusion soit plus qu'un simple concept de marketing et devienne effectif. Et pour celles et ceux qui, avec justesse parfois, soulignent les limites et les contradictions de nos communautés, se plaignent qu'elles ne sont pas si inclusives que cela, je n'aurai qu'un seul conseil, c'est de se retrousser les manches. En se commettant, ils et elles percevraient que les choses sont souvent un peu plus complexes qu'elles n'y paraissent. Que voulez-vous? On cherche toujours à avoir le beurre, l'argent du beurre et les fesses du crémier ou de la crémière ou du duz-crémise, assez inclusif comme écriture, mais en évitant d'avoir à bouger ses propres fesses. C'était l'inclusion, le travail de tous et toutes, une chronique de Denis Daniel Boulet parue le 31 août 2023 dans le magazine Fugue.
Apprendre à devenir mamie. Un texte d'Hélène David paru le 29 mai 2024 dans la presse. Il y a des chroniques inspirées par des rencontres, des événements, des gens qui accomplissent des choses particulières. Et puis, il y a des chroniques qui sortent de nos entrailles, de notre cœur, de nos sentiments. En voici une dans cette catégorie. Dans quelques mois, je serai mamie pour la deuxième fois. Déjà, être mamie une première fois, c'est notre vie qui change, qui se redéfinit. Je pensais que la maternité était le summum de la consécration de notre raison de vivre, mais être mamie revêt aussi beaucoup de sens. Évidemment, devenir mamie souligne deux constats. Avoir été mère et avoir vieilli. C'est normal et c'est la chaîne de la vie, mais c'est aussi poser un regard différent sur notre parcours. Être mamie, c'est accepter que la vie se poursuit à travers ce fils ou cette fille que nous avons mis au monde, que nous avons élevé, qui nous a inquiétés, nous a fait rire et pleurer, à qui nous avons donné le meilleur de nous-mêmes, qui vole maintenant de ses propres ailes et qui devient lui-même parent. Être mamie, ça s'apprend. Et on doit s'ajuster constamment. Le livre d'instruction est aussi flou que lorsqu'on devient mère. C'est un rôle qu'il faut exercer dans le « ni trop près, ni trop loin ». Nous ne sommes pas les parents et, dans le meilleur des cas, il y a deux parents pour prendre soin de l'enfant. Nous n'avons aucune autorité et c'est très bien ainsi. La mamie n'est pas la mère. Elle occupe la place que les parents voudront bien lui assigner. Elle doit accepter de se rendre vulnérable face au sens que revêt pour elle son statut, tant dans son rapport à son enfant devenu parent, qu'aux émotions et sentiments réveillés par l'arrivée de ce bébé. Toute cette dynamique consciente et inconsciente est à l'œuvre et nous habite, pour le meilleur et quelquefois le plus difficile. Si nos enfants ont des parents qui se sont séparés, ce sont souvent plusieurs grands-parents, biologiques et par alliance, qui s'émerveillent et veulent se rendre utiles. Pas évident pour un jeune couple qui jongle lui-même avec tous les aléas de la parentalité et de la disponibilité pour toute cette famille élargie. Ce nouveau statut implique plusieurs remaniements. C'est la bassinette qui servira à garder l'enfant qui réapparaît dans une pièce. Ce sont les jeux, peluches, couches et vêtements qui retrouvent une place dans la maison. Et ce sont nos vieux réflexes oubliés qui reprennent du service. Et maintenant, après un petit-fils, voici qu'une petite fille est annoncée. Pour moi, qui ai eu deux garçons, la naissance de ce bébé revêt évidemment un sens particulier. La complexité et les plaisirs de la relation mère-fille, je n'ai pas connu cela avec un enfant. Ce sera une découverte de me regarder aller avec une fillette qui viendra certainement susciter des émotions nouvelles et qui m'invitera à explorer des zones jusqu'à maintenant non explorées de ma personnalité. Dans ce rôle de mamie, on se dit tout de suite « Quel âge auront mes petits-enfants lorsque je serai vraiment vieille ?» On ne réfléchit pas à cela quand on met soi-même au monde des enfants. La vie nous paraît encore longue et nos responsabilités de mère sont accaparantes, en plus des autres défis au travail et dans notre vie sociale. Et moi de me demander, ayant plus de temps pour la réflexion, serais-je encore là, dans leur vie adulte, combien de temps vais-je en profiter? Devenir mamie, c'est aussi réaliser qu'à travers la vie que nous avons se concrétisent maintenant de nouvelles vies qui s'inscriront dans la suite de l'humanité. Les temps sont difficiles. Il y a des guerres, des massacres, des famines, une crise du logement, du climat et des surdoses, des problèmes de santé mentale. Et malgré tout cela, nos enfants ont foi dans l'avenir, dans l'importance de se reproduire pour que tout ne s'arrête pas là, que la vie mérite d'être vécue malgré tout. Nos enfants se battront comme nous l'avons fait pour donner le meilleur d'eux-mêmes à leurs enfants. C'est beau, c'est fort, et cela donne vraiment l'espoir que cette planète peut être sauvée, elle qui s'est tant fait maltraiter depuis des décennies. Comme mamie, notre rôle est celui de s'ajuster, d'être là au cas où, discrètement quand cela est nécessaire, ou simplement pour partager des moments heureux. Alors je remercie le destin, le ciel ou tout ce que vous voulez pour cette chance que j'ai de vivre cette expérience de mamie en me rappelant que chaque jour est un cadeau et un privilège. Pensée qui nous habite moi lorsque nous vivons dans le tourbillon d'être parents de jeunes enfants. C'est sûrement le fait d'être plus vieille, de travailler de moins longues heures, d'avoir calmé mes ambitions professionnelles et de regarder le plus sereinement possible vers l'avenir qui me permet de m'arrêter quelques instants pour écrire sur ce rôle et sur cette identité que plusieurs ont le bonheur de vivre, mais que malheureusement, d'autres ne vivront pas, ou vivront difficilement, ou à distance. C'est un nouveau don de soi, comme celui d'être parent, mais avec une prime de sagesse et de sérénité, que je souhaite à toutes les mamies. Notez bien, il y a aussi les papis, ainsi que les mamies et papis de cœur ou d'alliance. Je n'oserais pas parler à leur place. C'était « Apprendre à devenir mamie », un texte d'Hélène David, paru le 29 mai 2024 dans La Presse.
Il revitalisa Duplessis, Jean Lapointe, 1935-2022. Un texte de Yves Laberge, paru à l'été 2023 dans le numéro 154 de la revue Cap au Diamant. Décédé le 18 novembre 2022, Jean Lapointe aura été, en compagnie de son partenaire des Girolas, Jérôme Lemay, le premier Québécois invité à l'émission de variété la plus regardée aux États-Unis, The Ed Sullivan Show, en 1963. Dans un épisode enregistré exceptionnellement à Toronto, Lapointe et Lemay interprétèrent leur parodie de Little Darling. Jean Lapointe a eu plusieurs carrières, notamment dans la chanson. Au cinéma, Michel Brault lui confia le rôle principal dans Les Ordres en 1974, long-métrage basé sur des témoignages recueillis après la crise d'octobre de 1970. En incarnant magistralement un personnage ayant réellement existé, mais dont le nom a été changé, et incarcéré sans raison, Jean Lapointe a contribué à faire des ordres, selon moi, le plus grand film québécois et le plus grand film canadien de tous les temps. Son jeu intériorisé était d'une grande justesse de ton. On pouvait presque croire que cette fiction était un documentaire. Le point culminant de la carrière de Jean Lapointe aura été son interprétation inoubliable du premier ministre Maurice Duplessis, 1890-1959, dans une télésérie réalisée par Mark Blandford et scénarisée par Denis Arcand. Tout le contenu de Duplessis, tourné en 1977, était authentique. L'historien Jacques Lacourcière s'étant chargé de la documentation et de la consultation des archives. Grâce à ses talents d'imitateur, Jean Lapointe donnait un portrait juste et nuancé d'un politicien charismatique mais controversé. Certains critiques des années 1970 avaient reproché à l'acteur principal de montrer un Duplessis sympathique, voire attachant. Mais il fallait faire comprendre pourquoi le chef unioniste fut adulé durant trois décennies. En revivant les événements évoqués, la corruption des libéraux du premier ministre Louis-Alexandre Taschereau avant 1936, la conscription imposée par les libéraux fédéraux en 1942, on comprend qu'au milieu des années 1930, Duplessis dérangeait un système largement basé sur le favoritisme, la partisanerie, le patronage et les intrusions du gouvernement fédéral. Avant de fustiger ce que l'on nomme schématiquement et d'une manière manichéenne la grande noirceur, il faut bien saisir les mœurs politiques de cette période afin de contextualiser ce qui se passait avant, pendant et après le duplessisme. Jean Lapointe aura montré un Duplessis ambivalent, parfois cruel envers ses adversaires politiques ou contre les syndicalistes, comme Madeleine Parent, mais par ailleurs fin stratège et calculateur. Plusieurs séquences réellement tournées à l'Assemblée nationale restent mémorables, comme la reconstitution de ce jour du 21 janvier 1948, lorsque le gouvernement duplessiste a officialisé le drapeau fleur-de-lysée qui remplaça le Union Jack. On devrait montrer la télésérie Duplessis dans les écoles et les cégeps, mais aussi aux parlementaires. Les cas d'intimidation et de chasse aux sorcières n'ont pas cessé après la fin du duplessisme. Évoquant la chasse aux séparatistes qu'il a subie dès les années 1960 de la part du gouvernement libéral, l'historien Denis Vaugeois, lui-même successeur de Duplessis comme député de Trois-Rivières et ancien ministre péquiste, nuançait ce verdict contestable d'une grande noirceur en rappelant certains épisodes post-duplessistes, comme les arrestations de 500 Québécois durant la crise d'octobre 1970, qu'il jugeait encore plus grave que l'anticommunisme des années 1930. La loi du cadenas, c'est de la petite bière à côté de la répression des années 1960 et surtout de la loi des mesures de guerre. Le 17 septembre 2009, 31 ans après la sortie de Duplessis, Jean Lapointe avait accepté d'évoquer ses souvenirs du tournage lors du colloque du cinquantenaire de la disparition du chef unioniste tenu au Musée québécois de culture populaire de Trois-Rivières. C'était « Il revitalisa Duplessis, Jean Lapointe, 1935-2022 », un texte de Yves Laberge, paru à l'été 2023 dans le numéro 154 de la revue Cap aux Diamants.
La tyrannie du bonheur, selon André Brassard, un texte d'Olivier Choignière, paru le 5 septembre 2023 dans le magazine Nouveau Projet. C'est l'histoire d'un homme de théâtre porté au nu dès ses débuts, mais dont les dernières années de vie ont été marquées par la pauvreté et l'oubli. Entre les pages de notre pièce 35, le metteur en scène André Brassard revit sous les traits d'un personnage de fiction. La dernière cassette, pièce de théâtre d'Olivier Choignière. André Brassard fixe l'enregistreur posé devant lui. Il fait rouler son fauteuil derrière la bibliothèque. Longtemps. On l'entend fouiller dans des sacs. Longtemps. André Brassard revient au plan de travail. Il déballe une cassette vierge. Il jette le plastique derrière lui et sort la cassette du boîtier. Il introduit la cassette dans l'enregistreur. André Brassard hésite un instant, puis appuie sur le bouton « Enregistrement ». André Brassard. « Test, one, two, one, two. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et c'est en sciant que Léonard devint si. » André Brassard appuie sur les boutons arrêt. Recul, lecture. André Brassard, 75, test, one, two, one, two, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et c'est en sciant que Léonard. André Brassard appuie sur les boutons arrêt, recul, retour au début de la cassette, bouton enregistrement. André Brassard. Bonne fête en retard, l'inerte. Pas eu le courage de m'enregistrer le jour de ma fête. Au lieu de ça, j'ai écouté une vieille année. 1982. André Brassard, 37. Je voulais tout, Chris. De la misère à croire que j'ai pu être aussi naïf. Je pensais quoi, là? Que j'avais trouvé le bonheur? Non, mais tu sais, c'est quoi cette obsession avec le bonheur? Es-tu heureux? Es-tu heureuse? Oh, je suis pas heureux. Si tu relis le contrat que t'as signé en venant au monde, c'est pas marqué que ça va être facile. Il y a juste les États-Unis qui ont mis la recherche du bonheur dans la Constitution. C'est quoi être heureux d'abord? Un droit de l'être humain? C'est pas un droit, c'est un hasard, c'est un cadeau. C'est quand t'es en harmonie avec ton entourage, quand le monde passe à travers toi sans te détruire, sans te corrompre, quand tu peux t'ouvrir complètement puis que... Mais bon, ça arrive combien de fois dans une vie? Si on compte pas le théâtre, longtemps. Avec Monsieur C, ça a duré 13 ans. Tant. Avec des trous, quand il se faisait une blonde. Tant. Puis il revenait, pour la dope. Tant. Puis pour... Il se coupe lui-même. Pendant ce temps-là, je me suis fait avaler par l'insu... L'institution. Avalé. Pas complètement, là. Des contraintes, il y en a toujours eu. Sans contraintes, il n'y aurait pas de théâtre. Des fois, il en faut. Des fois, il n'en faut pas. Puis des fois, il y a des faux pas. Tant. André Brassard réalise qu'il enregistre le silence. Il appuie sur le bouton arrêt. Tant. J'ai connu le... Il appuie sur le bouton enregistrement. J'ai connu le succès trop tôt, c'est ça le problème. Ça devrait être interdit de se faire traiter de génie à 22 ans. Si j'avais eu moins de succès, l'institution... Chris, l'institution m'aurait pas sauté dessus, avec tout ce que ça a de gratifiant. Qu'est-ce que j'aurais été si j'étais pas devenue une vedette de théâtre, relativement? Tant. Golgotha, terrien? Tant. 4 shows par année. Je réalisais pas la chance que j'avais. Ou peut-être que je le réalisais, justement. Peut-être qu'il fallait en profiter pendant que le train passait. Peut-être que c'est André Brassard 37 qui avait raison. Qu'est-ce que j'en sais? Ça va faire quasiment 20 ans que je fais plus de théâtre. Je sais plus c'est quoi. 20 ans que le téléphone sonne plus. Quand ben même il sonnerait, je serais pas capable de le décrocher. Je suis comme une roche, sti. Une pierre qui roule en fauteuil puis qui ramasse ben de la mousse. Il rit. Olivier Chouanière est auteur, metteur en scène et co-directeur général et artistique de la compagnie de création L'Activité depuis 25 ans. En 2014, il a reçu le prix Siminovitch pour l'ensemble de son œuvre. Pour aller plus loin, la dernière cassette est le 35e titre paru dans la collection Pièces. C'était La tyrannie du bonheur selon André Brassard, un texte d'Olivier Chouanière paru le 5 septembre 2023 dans le magazine Nouveau Projet.